Parce que peut-être je me considère comme scientifique du fait de mes études. Bon, depuis, j'ai suivi d'autres chemins, mais c'est vrai que ça m'aurait bien plu de faire de la recherche. Alors, je me suis reposé la question, qu'est-ce que c'est que la science? Alors, pour ça, j'ai pris un dictionnaire du 20e siècle, milieu du 20e siècle. Et ce dictionnaire nous dit, c'est un ensemble de connaissances fondées sur l'étude. Ça vient du latin scire, qui veut dire savoir. Donc, les sciences, c'est quand même pour un savoir. La science cherche à mettre de l'ordre en classant les choses et en définissant les lois qui régissent en fait l'ordre du monde. Alors, une des approches toutes classiques, ça consiste en fait à décrire ce qu'on a sous les yeux, à mesurer, à peser, à évaluer. Déjà, une des premières choses qui me gêne, notamment quand on a affaire au monde vivant, c'est que ce type de mesure ou d'évaluation est destructif. C'est-à-dire qu'on va détruire le sujet que l'on étudie. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux plantes. Donc, cet après-midi, on a vu des plantes qui étaient sur le lieu où elles poussaient. Ces plantes, on peut les décrire, on pourrait les mesurer, etc. Pour faire ça de façon facile, on va arracher la plante. À votre avis, est-ce qu'une plante, une fois qu'elle est arrachée, c'est la même chose que la plante quand elle est dans son milieu? Donc, déjà, on biaise l'objet qu'on étudie. Et Goethe, donc ce poète, philosophe, de la fin du 18e et début du 19e siècle, qui est perçu comme justement ce côté poète, philosophe, était un scientifique. Mais justement, et c'est lui, c'est en lisant des choses de Goethe sur la métamorphose des plantes, qu'il aborde cet aspect-là. Il dit en fait, les plantes, on veut les étudier, et qu'est-ce qu'on fait pour les étudier? On les arrache. Donc, déjà, on n'a plus la plante telle qu'elle était à son origine. En voyant la façon dont Goethe abordait les choses pour étudier la lumière, pour étudier les plantes, il avait pris des voies différentes de la science tout à fait classique. Un autre scientifique qui m'a beaucoup marqué, c'est Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre, il est connu pour ses promenades entomologiques. C'était un entomologiste qui est originaire d'Orange, originaire de l'Aveyron, et qui a terminé sa vie à côté d'Orange dans l'Armas de Sérignan. Et il a beaucoup écrit, donc on connaît beaucoup ses descriptions d'insectes. Il a été énormément observateur, justement pour... il se heurtait déjà à la fin du 19e siècle à justement cette science officielle qui mesure et qui coupe en morceaux. Et à propos de Réaumur, il dit « La science dite sérieuse, celle qui vaut honneur, profit, renom, consiste à tailler sa bête en menues rondelles avec des instruments très coûteux. Ma ménagère en fait autant d'un paquet de carottes, sans autre prétention qu'un modeste plat non toujours réussi. » Et plus loin, il dit « Ah, que votre philosophie surtout est plus élevée, plus vivifiante, plus salutaire lorsque nous nous arrêtons avec quelque complaisance sur les merveilles de perfection. » Donc ça, c'était à propos de Réaumur et à propos, en fait, déjà de le côté académique des sciences, académisme, la science officielle qui coupe en rondelles les choses, qui les dissèque, et alors qu'il y a tout un pan du monde qui nous entoure qui ne peut s'appréhender que justement par l'observation. De la science à la recherche, il n'y a qu'un pas. c'est vrai que la plupart des scientifiques font de la recherche. En recherche, on va distinguer ce qu'on appelle la recherche fondamentale et puis la recherche appliquée. Donc les investigations qui sont liées à la recherche fondamentale ont mené à des connaissances qui sont toujours plus fines ou plus profondes. Et là aussi, si on s'en tient, il va y avoir une différence avec ce qu'on appelle les sciences physiques et puis les sciences biologiques. Une distinction. Finalement, quand on regarde comment ça a évolué, donc au niveau de ce qui est physique, on est allé dans l'infiniment grand, donc vers la connaissance astronomique, donc de l'espace, essayer de savoir comment la Terre s'est constituée, comment notre monde en est arrivé là. Donc on part dans un infini d'un côté, et puis de l'autre côté, on part dans l'infiniment petit, et ces 50 dernières années, on est allé toujours vers le plus petit, vers l'atomique, enfin 50 dernières années, non, un peu plus que ça, ça fait un siècle à peu près qu'on travaille là-dessus. Marie Curie, c'était le début du 20e siècle, donc on est allé vers l'unité de base de la matière. Et côté biologie, finalement, on est allé aussi vers toujours cet infiniment plus petit, vers le moléculaire, vers le gène. Ça, j'y reviendrai après. Si on reste sur la matière, moi, j'ai toujours été frappée par ce qu'on pourrait appeler la vacuité de la matière. Alors, il y avait une image qui m'était restée, si on ramène la taille d'un atome d'hydrogène à la taille d'un gymnase. Donc, le gymnase, c'est la molécule d'hydrogène. L'hydrogène, c'est la molécule, je prends cet exemple, c'est la molécule la plus simple. Il y a un proton, un électron. Et le proton qui sert de noyau, ça serait une balle une orange. Au centre de ce gymnase. Vous voyez, c'est pas vraiment une orange par rapport au gymnase. Et l'électron, ce serait une balle de ping-pong qui parcourrait tout le volume du gymnase à toute vitesse pour se trouver. Alors c'est là où, en fait, la science n'arrive jamais à dire où se trouve l'électron. Il va dire, il y a telle probabilité pour que l'électron se trouve à tel endroit. Voilà. Et c'est des choses comme ça, ces particules élémentaires qui sont en fait du vide qui est comblé par un déplacement d'un électron, donc de l'énergie qui se déplace à toute vitesse, qui va faire la solidité de la matière. Et bon, c'est quand même... à midi, on était parti sur l'influence, mais quand on s'aperçoit que c'est juste une histoire d'énergie, même des choses qui paraissent très dures, c'est de l'énergie qui... on peut se dire qu'il y a peut-être des moyens d'influer dessus autrement qu'avec un marteau. Au niveau donc de la biologie, c'est pareil. Les investigations, ça a été d'abord de s'apercevoir que, par exemple, une plante s'était formée de cellules, ou un animal, de cellules. Les cellules végétales sont différentes des cellules animales. Et puis, à l'intérieur des cellules, il y a... un noyau, il y a des gènes, il y a des molécules, il y a des organites qui permettent à la cellule de respirer, il y a, pour les plantes, il y a des organites qui vont permettre de capter la lumière solaire, de fabriquer des sucres. Donc, on est descendu un peu plus bas. Dans le noyau, il y a les fameux chromosomes. Les chromosomes, c'est constitué de gènes. Et donc, toujours, on est allé toujours beaucoup plus petit, toujours au niveau de... des investigations. Donc, on a la recherche fondamentale pour connaître le monde qui nous entoure, et puis après, on a les applications de cette science. Et donc, en termes d'applications, l'atome, ça a donné le nucléaire, la bombe atomique, mais aussi les radiographies en médecine, ça a donné quand même des choses qui ont été utiles. Toutes les connaissances au niveau moléculaire, au niveau génétique, et ça a donné ce qu'on appelle les biotechnologies, les OGM. À cheval sur les deux aussi, entre le physique et le biologique, en descendant petit, on a tout un pan de science que l'on ignore la plupart du temps qui s'appelle les nanotechnologies, avec des applications aussi dont je suppose on ne maîtrise pas du tout les conséquences. Cette recherche, elle est coûteuse. Quand on veut aller dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, c'est quelque chose qui est très coûteux. Alors se pose la question du financement de la recherche. Alors le financement, il peut se faire bien sûr avec de l'argent public. Souvent les recherches fondamentales se font de façon publique. Mais dès qu'on est sur de la recherche appliquée, eh ben, c'est ceux qui vont avoir intérêt dans les nouvelles découvertes qui vont financer. Alors ça va être l'armée qui est un gros pourvoyeur au niveau de la recherche. Pas toujours au niveau des applications, des choses qui soient très intéressantes pour notre société. Bon. Vous avez les industries, donc les grosses multinationales ont des services de recherche qui sont vraiment très importants. Maintenant, on a tout ce qu'on appelle le partenariat public-privé, c'est-à-dire que c'est de la recherche, ce sont des financements publics qui vont permettre de financer de la recherche qui va trouver des applications dans le privé assez facilement. Je trouve que là, il faut être très prudent dans ce type de financement. Vous avez des choses comme le Téléthon, qui a permis de financer la recherche. Si les biotechnologies en sont là où elles sont, c'est un peu grâce au Téléthon. Donc le Téléthon qui était pour trouver des solutions aux maladies génétiques, donc pour travailler sur le gène, ça a permis de financer des machines automatiques pour faire les analyses de gènes. Parce que les premières analyses de gènes qui étaient faites dans les labos, c'était extrêmement long. Bon, il fallait casser les chromosomes d'un certain endroit, c'était extrêmement long. Et tout ça, ça a été automatisé grâce au Téléthon. Les premières recherches sur le décryptage du génome humain, ils pensaient qu'il y en aurait pour 10 ans pour décrypter, même peut-être plus, pour décrypter le génome humain. Et en fait, quand il y a eu ces méthodes automatiques pour analyser les chromosomes, eh ben, ça s'est fait en 2-3 ans, il y a eu le décryptage du génome humain. Je dis bien le décryptage du génome, c'est-à-dire bon, les 23 paires de chromosomes. On a connu leur longueur, on a connu les successions de base, parce que c'est tous les gènes sont faits sur le même modèle de succession de 4 bases qui sont les mêmes, qu'on soit sur une bactérie, qu'on soit sur une fourmi, ou qu'on soit chez l'homme, ou sur le maïs. Et donc, c'est les successions de ces bases qui vont coder les fameuses protéines. Donc, c'est des successions qu'on va appeler un gène, qui va coder une protéine, qui va correspondre à un caractère. Ça, c'est pour simplifier. Hein. Donc là, on sait les successions, la composition exacte hein, des briques qui constituent les chromosomes, mais on est très très loin de savoir à quoi ça correspond comme gène. Mais n'empêche que ça a été fait très rapidement aussi pour le maïs, pour le riz. Et si on n'avait pas eu ces avancées technologiques liées au financement par le Téléthon, on n'aurait peut-être pas les OGM encore de nos jours. Hein. Il faut penser aussi que les domaines d'investigation au niveau de la recherche sont immenses. Et si on met tous les moyens sur justement le gène, ou sur l'atome, eh bien, il n'y a plus grand-chose après sur les autres domaines de la science. Et actuellement, c'est des rapports de l'ordre de 80% sur l'atome ou le gène et 20% pour le reste. Or, l'application et ce qui va servir à notre société de tous les jours, ben c'est le reste dont on a besoin. Et quand on voit où nous amener les applications qui sont liées donc à l'atome ou au gène, bon, je me dis on aurait pu s'en passer. Pour l'instant, ça a plutôt amené des problèmes que autre chose. Alors, on va changer un petit peu de registre. En 1850, Émile Renan parle de la science. Il parle de la science, la poésie et la morale comme d'une harmonie supérieure formant la vraie religion naturelle. Donc, c'est une façon d'aborder la science, donc, c'est-à-dire l'investigation de du monde qui nous entoure. Donc, lui disait, il y a la science. Mais pour justement aborder le monde qui nous entoure, il faut aussi la poésie et la morale. C'est-à-dire, de nos jours, on pourrait traduire ça par science, art et éthique. Et c'était pour faire le lien un peu avec le festival de Sciences en Bobine, parce que je trouve que ces trois aspects, finalement, c'est ce qui fait l'intérêt de la vie. J'ai aussi réfléchi sur la triarticulation science, culture, religion. Parce que ça aussi, c'est trois façons d'aborder notre monde. Et quand on a des dérives d'un sur l'autre, c'est assez intéressant aussi d'analyser ça. Quand on traite la culture de façon scientifique, ben, qu'est-ce qu'on a ? On a certaines émissions de France Culture qui vont couper en quatre les cheveux pour décortiquer une œuvre d'art. Lorsqu'on traite la religion avec l'approche artistique, on va avoir des expositions ou des concerts dans des édifices religieux, par exemple. Et lorsqu'on traite les sciences avec la vision religion, alors dit comme ça, on dit, mais c'est, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si on regarde, il y a les sciences vont s'appuyer d'abord sur des hypothèses. Et si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire si on continue après l'investigation, ces hypothèses, ça devient des dogmes. Et le dogme, c'est bien basé sur une croyance. Enfin, où la croyance et le dogme, c'est bien la même chose. Donc, quand quand je parle de ce lien, cette dérive donc de mettre de la religion dans la science, c'est pas si éloigné que ça, parce qu'on a énormément de postulats qui reposent sur des dogmes en religion. Des choses, bon, ça peut avoir plus ou moins de conséquences, mais par exemple, en géologie, on parle que la Terre attend 2 millions d'années en pensant une valeur du temps qui est toujours constante. Mais est-on sûr que la Terre a toujours tourné autour du Soleil à la même rapidité ? Moi, si à des moments elle tournait deux fois plus vite, le temps il est deux fois plus long par rapport à ce que. Ou deux fois plus court que ce que l'on pensait. Bon, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de. On est obligé de faire des hypothèses, sinon on n'avance pas. Et alors, ça aussi, c'est deux démarches scientifiques qui peuvent être différentes. Il y a la démonstration et puis la réfutation d'hypothèses. Donc, on va émettre une hypothèse sur un sujet et puis on va tâcher de démontrer cette hypothèse. Et puis, la réfutation, c'est de dire, dans 99% des cas, c'est vrai, ça marche bien. Et puis, hop, on va trouver le contre-exemple qui va faire que l'hypothèse est démolie. Et donc ça, c'est aussi des attitudes différentes quand on aborde la science. Actuellement, on pourrait appliquer ça, par exemple, au changement climatique. Il y a énormément de scientifiques qui travaillent dessus. Donc, le changement climatique existe, on peut le démontrer. Hein, on a des mesures qui démontrent que le climat n'est pas le même qu'il y a 30 ans. Récemment, j'étais à une réunion sur l'agriculture méditerranéenne et il y avait la région Rhône-Alpes. Alors, bon, la région Rhône-Alpes, Drôme, Ardèche, c'est vrai que c'est une agriculture de type méditerranéen. Ils ont dit, mais non, non, ça monte jusqu'à Lyon maintenant. À Lyon, il y a actuellement les relevés climatiques de Lyon caractérisent le Lyonnais comme la région d'Avignon il y a 30 ans. C'est les mêmes moyennes de température, les mêmes donc creux, enfin, déficience hydrique en été, etc. Voilà, en 30 ans, moi je pensais que c'était Avignon qui passait à Valence, Valence à Lyon. Donc ça y est, déjà on a le climat d'Avignon il y a 30 ans se retrouve à Lyon actuellement. Voilà. Donc on a des mesures. Voilà, qui... Après on peut se dire sur... Si on avait des très longues séries de mesures, peut-être que ce serait ce qu'on appelle un épiphénomène. Voilà. Donc là, après, à quel endroit on se situe ? Ça, on ne sait rien. Après, on peut aborder ça sur les causes du réchauffement climatique. Donc là aussi, on va faire des hypothèses. Et par contre, là, on n'a aucune démonstration qui va pouvoir dire le réchauffement, enfin, le changement climatique est lié à une action anthropique. Il y a de fortes probabilités. Par contre, on peut dire, voilà, on a de fortes probabilités pour que le réchauffement climatique soit lié à l'action de l'homme. Et du coup, cette attitude fait l'objet de réfutations, parce qu'il y en a que ça dérange. De dire que c'est l'action humaine qui est la cause du changement climatique. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire qu'il faut changer de comportement, etc. Donc ça va très loin quand même. Hein. Autre aspect que je voulais un peu aborder, c'est, je me suis toujours demandé pourquoi on dit que les sciences, c'est pas l'affaire des filles ou des femmes. Bon, là aussi, si on regarde les filles qui vont faire des carrières scientifiques, il y en a beaucoup moins que des garçons, même déjà rien qu'au lycée, hein, il y a moins de filles dans les filières scientifiques que dans les filières littéraires ou économiques, alors que, bon, il me semble qu'elles ont les mêmes capacités. Et je me dis, finalement, il y a un certain formatage où on va aiguiller, déjà de tout petit, par rapport aux jeux qui sont présentés aux enfants, et tout ça, on va aiguiller les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où, je veux dire, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire la même chose que les garçons quand j'étais petite. Bon, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai appris à souder, mais j'ai fait aussi de la couture, j'adore faire la cuisine. Bon, je veux dire, chacun était à sa place, mais je n'avais pas l'impression d'être empêchée de faire quoi que ce soit. Bon, après, même dans mes activités de loisirs, j'ai fait de la spéléo, il n'y a pas beaucoup de filles qui font de la spéléo. Mon premier boulot, ça a été conseillère agricole en arboriculture fruitière. Bon, on était deux au niveau de la région. C'était alors que bon, pour une trentaine de techniciens hein, masculins. Bon, c'est parce que bon, moi, j'avais aucun a priori et j'ai toujours eu l'impression que j'étais aussi capable que les hommes. Donc, s'il y a des filles et des jeunes filles, n'hésitez pas à ayez cette impression que vous êtes aussi capable que les autres. Et d'ailleurs, les résultats au niveau des études et tout ça montrent que les filles elles sont plus tenaces au niveau des études et donc en général elles ont de meilleurs résultats. Bon, donc il faut y aller, il ne faut pas se faire. Alors le problème c'est que Après, au niveau des carrières, ça va être plus vers l'enseignement, vers le social aussi. Enfin, il y a de la recherche qui peut être faite au niveau médical. Ça va être ce type. Et pas tellement dans la recherche fondamentale. Si on regarde les prix Nobel de physique, de chimie, eh ben, c'est essentiellement des hommes. Bon, il y a eu Marie Curie et Irène Joliot, mais sorti de ces deux, on entend parler beaucoup plus d'hommes hein, que de femmes. Pourtant, je pense qu'elles ont les mêmes capacités. Hein, ce qui manque, je pense, aux femmes, c'est d'avoir cette volonté de s'imposer un peu. Bon. Donc moi, je pense que c'est. Enfin, il faut vraiment encourager cette ouverture hein, au niveau des. Tout simplement, au niveau des établissements scolaires et puis au niveau de la société aussi. Alors, pour terminer. Côté développement durable, on va retrouver la science dans les trois domaines hein, qui caractérisent le développement durable, que sont l'économie. Alors l'économie par quel biais? Par l'affectation des crédits de recherche. C'est-à-dire si on a des recherches, enfin des crédits qui vont aller sur tel secteur, en ce moment on a le gros problème avec ITER. ITER qui draine quand même une grosse partie des crédits de recherche sur la physique. Bon, au détriment de tout le reste, au détriment de trouver des batteries qui tiennent le coup pour stocker l'énergie. Bon, si on mettait tout ce savoir-faire qu'on envisage de mettre sur ITER, sur les énergies renouvelables, sur de nouvelles sources d'énergie, des façons de stocker tout ça, bon, je veux dire, on serait beaucoup plus en avance que ce qu'on est actuellement. Sur l'environnement, alors là, c'est des conséquences plutôt, on va traiter ça plus en conséquences négatives, c'est-à-dire qu'actuellement, ben, le nucléaire, par exemple, ou l'utilisation des produits chimiques, qui sont issus aussi de la recherche scientifique, sont plutôt des conséquences négatives sur l'environnement. Les nanotechnologies, on ne sait pas du tout aussi qu'est-ce que ça va donner, mais bon. La recherche scientifique va permettre aussi de trouver des moyens pour dépolluer, pour. Bon. Mais c'est quand même dommage d'en arriver à des extrémités comme ça, quoi. Là aussi, toute l'énergie qu'on va passer à trouver des bactéries qui vont dépolluer, bon, on ne va pas la passer sur d'autres secteurs. Et le troisième volet, donc, qui est le social, eh ben, le social. Il y a tout un volet des sciences qu'on appelle les sciences sociales qui est en train de plus en plus de se développer. Et ça, je trouve que c'est quand même. Enfin, les sciences humaines, ça, c'est quand même un domaine qui est assez intéressant. Sciences et politique, parce que donc, quand on parle de développement, enfin, je continue à utiliser ce mot développement parce que. J'ai pas trouvé le mot de remplacement. Développement, ça veut dire aller vers quelque chose de plus ample. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre société de demain? Donc, le mot développement est remis en cause. Souvent, parce qu'on fait le parallèle développement et croissance. Bon, je vais continuer à utiliser ce développement parce que ça correspond à des notions très particulières d'action sociale, on va dire. Et donc, chaque fois qu'on parle donc d'action sur notre société, ben, il y a le politique. Là aussi, la tripartition, l'économie, le politique et puis la société civile. Et le politique, c'est lui qui va faire les choix, qui va prendre les décisions. Finalement, le politique, c'est lui qui met en œuvre les programmes qui sont désirés, si tout marche bien, par la société. Je trouve qu'il y a un manque de formation scientifique de la plupart des politiques, ce qui fait que quand on ne connaît pas quelque chose, ben, on le regarde de loin et on s'en méfie. Donc il y a cette distance entre les scientifiques entre les politiques et la science. Et puis, on a aussi le fait que quand on ne sait pas trop où ça va, on va se dire bon, on va s'en servir comme caution. Alors, dernièrement, c'était il y a 4 ou 5 ans, ça avait fait la une à l'époque quand ça avait été trouvé, les Américains avaient annoncé qu'ils ont trouvé le gène de l'obésité. Il y a un gène qui se trouve avec une fréquence plus élevée chez les personnes obèses et qui n'est pas sur des personnes qui sont maigres. Bon, c'est certain que physiologiquement, on a des personnes qui vont avoir tendance à devenir obèses si elles ne font pas attention à ce qu'elles mangent, alors que d'autres, même en faisant pas attention à ce qu'elles mangent, resteront toujours maigres. Mais voilà, on a dit on a trouvé le gène de l'obésité. Alors, il faut croire quand même que depuis une trentaine d'années, on a une modification génétique incroyable de notre société pour avoir une épidémie d'obésité, puisqu'on parle d'une personne sur cinq aux États-Unis et on parle d'une personne sur cinq en France d'ici 2020. Donc, c'est quand même énorme. Et l'argument scientifique sert de caution aux politiques pour ne pas remettre en question un mode de vie avec du McDo, avec des heures passées devant une télé, etc., manque des exercices et tout ça. Parce que le problème de l'obésité, c'est quand même lié à ça. Hein, c'est une mauvaise nourriture et manque d'activité physique, plus un abêtissement devant la télé. Bon. Donc, ça aussi, c'était pour donner un exemple un peu de ce rapport entre la politique et la science, et puis le fait que la science est donnée pour certains comme une sorte de caution pour se dédouaner, pour se décharger de choses sur lesquelles, par contre, là, le politique pourrait avoir son mot à dire en termes de choix de société. Alors, pour conclure, il faudrait dire que la science est un formidable moyen de mieux connaître notre monde. Donc, on l'a vu, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit de la matière, dans le fonctionnement du monde qui nous entoure, en allant toujours un peu plus loin que les réalités physiques qui nous entourent. On peut aussi aborder le monde vivant, hein, comme je vous disais, cette histoire de plantes, les plantes arrachées, physiquement elle ne change pas hein, par rapport au moment où elle était en terre, et pourtant elle a changé. Donc aller au-delà de ce qu'on voit physiquement, et puis avoir cette approche aussi du monde sensible. Et Je pense que ce qu'il faut arriver à cultiver ou à mettre dans notre jeunesse, c'est de garder cet aspect de curiosité, d'enthousiasme lié aux découvertes, lié aux nouvelles connaissances qu'on peut avoir. Et ça, moi, je crois que si on arrive à le garder aussi, cet enthousiasme, toute sa vie, c'est une façon de mieux vivre aussi. Et j'avais lu un texte de Jean-Henri Fabre là-dessus, je ne l'ai pas retrouvé, mais où lui disait que, bon, je pense qu'il devait être assez âgé quand il avait écrit ça, et qu'il continuait à s'émerveiller justement par rapport au monde qui l'entourait, et à s'émerveiller chaque fois qu'il avait des connaissances supplémentaires. Moi, je ressentais la même chose aussi. L'autre jour, j'ai compris comment se faisait le banc du mur du son. J'étais contente, voilà. mais des choses, c'est vrai, ça peut prêter à sourire, mais savoir aussi, c'est ma fille qui a mené le codage binaire. Comment, vous savez, les ordinateurs, ça fonctionne sur oui ou non, le courant il passe ou passe pas. Mais comment on arrive à coder des nombres qui peuvent être à 10 chiffres ou comme ça, avec juste un 1 ou un 0. C'est bon, et ben ils avaient travaillé là-dessus, du coup je me suis repenchée avec elle là-dessus. Ben c'était quelque chose, je ne sais pas si je l'avais vu, je l'avais oublié en tout cas, Et bon, mais j'étais toute contente de pouvoir savoir comment recoder en binaire. Voilà, c'est. Et donc, moi, j'aimerais comme ça qu'on reste assez enthousiaste par rapport à cette découverte. Et puis, je crois qu'il y a énormément de choses à découvrir et encore et à sentir autour de nous. Voilà.